Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans les carnets. Ensemble, allons écouter le monde changer, observer comment on vit ailleurs. Enfin le Brexit, disent ceux qui ont voté pour il y a plus de 3 ans et demi déjà. Dès le début de ces carnets, on va donner la parole aux Brexiteurs du nord-est de l'Angleterre, une région sinistrée et qui a désigné une fautive pour tous ces malheurs, l'Europe. Ils veulent essayer autre chose. Déjà de nouvelles élections, les Américains se relancent dans la campagne. Les primaires démocrates commencent demain dans l'Iowa, c'est là qu'on va. L'enjeu de cette série de votes qui se poursuivra jusqu'au mois de juin, choisir le ou la meilleure candidat ou candidate pour battre Trump. Il court, le coronavirus et l'ambiance devient franchement pesante en Chine. Notre correspondant qui vit là-bas à Pékin va nous raconter les contrôles qui se multiplient et le pays qui se referme. Et puis on vous parlera de vos intestins. Je sais, c'est bizarre, mais figurez-vous que les bactéries qui s'y trouvent jouent un rôle essentiel pour notre santé. Or, notre mode de vie occidental leur fait la vie dure. On va suivre deux chercheurs qui sillonnent le monde pour retrouver des microbiotes en voie de disparition chez des peuples reculés. À terme, ces bactéries vont sans doute nous soigner. Nicolas Caro a aimé un roman algérien un peu barré, il viendra nous en parler. Et Joseph Chovanec nous parlera de très vieux graffitis. Les carnets sont ouverts, direction Hartlepool, au nord de l'Angleterre.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Premier week-end sous l'ère du Brexit pour les Anglais et on prend la direction de la ville d'Hartlepool, 95 000 habitants dans le nord-est de l'Angleterre. Là-bas, 70% des électeurs ont voté pour quitter l'Europe. C'est l'un des plus hauts scores du pays, tout comme son taux de chômage, 2 fois plus élevé que la moyenne. Hartlepool est une ville sinistrée, symbole du marasme des années 80 en Angleterre. Au début du XXe siècle, c'était l'un des 3 ports les plus actifs du pays. Mais depuis, les usines ont fermé et les chantiers navals ont disparu. Symbole de cette asphyxie économique, les banques alimentaires se sont multipliées ces dernières années dans la ville. Immersion dans l'une d'elles, où l'on espère beaucoup du Brexit. Reportage signé Pauline Jacot.
Séjour de bingo au foyer de l'annexe. Ici, tout le monde connaît ce bâtiment blanc coincé au milieu des petites maisons en briques rouges. Sur les 4 tables autour de la grande salle, tout est à 1 pound. Du pain de mie, du beurre, des légumes, des habits pour bébé et des sacs de vêtements chauds. Nora se lève de sa chaise. Elle interrompt quelques instants sa partie de bingo pour aller remplir sa tasse de thé.
Et si nous avons des boissons chaudes, des repas chauds, de la compagnie, quelquefois nous faisons des quiz et des bénévoles nous aident dans nos démarches pour obtenir des aides sociales. Il y a toujours quelqu'un ici pour répondre à vos questions.
Nora est une ancienne infirmière. Ses 2 fils sont aujourd'hui au chômage.
Mon fils cadet travaillait comme taxi 12 à 13 heures par jour. Il a eu une crise cardiaque à 43 ans parce qu'il travaillait trop. Il est au chômage en ce moment. L'État lui donne un peu d'argent, mais c'est surtout moi qui m'occupe de lui en attendant qu'il se remette. L'Angleterre a donné tellement d'argent aux autres pays, alors que nous ici, nous souffrons, nous nous battons. Grâce au Brexit, nous allons pouvoir créer des emplois stables, pour obtenir des prêts immobiliers, pour s'occuper de nos enfants. Quand j'étais enfant, il n'y avait aucune banque alimentaire. Maintenant, il y en a partout dans la ville.
Au bout du couloir, le torchon sur l'épaule, Michael surveille ses casseroles. Au menu aujourd'hui, haricots, frites et brocolis. Entre 2 blagues à son collègue et commis du jour, ce joyeux quinquagénaire ne cache pas son épuisement, lui qui n'a jamais quitté Hartlepool.
J'ai travaillé dans une usine de conserve de tomates pendant 3 ou 4 mois. Maintenant, je suis ouvrier dans une usine de recyclage. Je viens de signer. Je commence ce soir. Nous, on veut que les usines rouvrent. On va avoir maintenant notre propre argent et nos propres emplois. J'espère que ça va marcher.
Assis devant un des écrans d'ordinateur au fond de la salle, John, 33 ans. Il est là tous les jours pour actualiser son formulaire de demande d'allocation. Le crédit universel, comparé par tout le monde ici à un système punitif mis en place en 2010 par les conservateurs. C'est aussi l'année de l'ouverture de l'annexe. Le directeur Sacha consulte ses emails de l'autre côté du couloir.
Les gens veulent que les choses changent, et le Brexit est devenu le mécanisme de ce changement. C'est pour ça qu'il y a eu un tel score ici, c'était pas forcément contre l'Europe, c'était pour dire haut et fort, nous voulons être vus, nous voulons être écoutés. Et le gouvernement semble faire un pas vers nous maintenant, mais je suis pas d'accord avec leur formule, les gens du Nord ont été laissés de côté. Ça voudrait dire qu'un jour, on a été au même niveau, mais jamais, nous n'avons jamais joué dans la même cour. Ils se rendent compte aujourd'hui du niveau de frustration. Les gens ici ne s'attendent pas à grand-chose, donc le moindre petit investissement du gouvernement pourrait changer beaucoup de choses.
Dans la grande salle, Cathy hausse les épaules en parlant du Brexit. Honnêtement, je ne crois plus beaucoup aux promesses, mais ce que je sais, sourit-elle en montrant du doigt ses pièces de monnaie, c'est qu'aujourd'hui au bingo, j'ai gagné 5 pounds. Hartlepool, Pauline Jacquot, Europe 1.
Pauline Jacquot qui est en ligne avec nous depuis cette région désindustrialisée du nord-est de l'Angleterre. Bonjour Pauline.
Bonjour Sophie.
Un petit air d'un film de Ken Loach, hein, votre reportage.
Ouais.
En écoutant ces gens dans le centre d'accueil, on sent l'espoir qu'a provoqué le Brexit et l'importance qu'a eu ce vote pour les habitants d'Hartlepool.
Oui, c'est vraiment le vote qui a compté ces dernières années pour les habitants. Ils ont vraiment le sentiment d'avoir été abandonnés par la classe politique. Ouais. Et les seules mesures qu'ils ont vues, qu'ils ont vécues, ce sont, disent-ils, des mesures punitives. Le crédit universel, par exemple, ce système d'allocation chômage, eh bien, beaucoup ont été exclus ou sanctionnés juste parce que, quelquefois, ils ont raté un rendez-vous ou alors qu'ils sont trop malades pour travailler. La santé, c'est vraiment un gros problème dans cette ville où, pour la première fois depuis un siècle, l'espérance de vie des habitants a baissé.
Ouais, c'est un signal terrible, ça. Et dans leur esprit, c'était forcément la faute de l'Europe.
Forcément, l'Europe, encore l'Europe, toujours l'Europe, effectivement. Cette Europe, elle paraît très éloignée du quotidien, ce référendum du Brexit. Cette question, oui ou non, est-ce que vous voulez quitter l'Union européenne ? Eh bien, pour une fois, les gens se sont dit pour ce référendum, oui, ma voix va compter. Ils sont allés voter pour le Brexit. Et il y a eu quelque chose d'extrêmement rare ici, c'est que le jour du référendum, il y a eu de très longues files d'attente devant les bureaux de vote.
Ce vote, c'est une manière de dire, on y arrivera mieux tout seul.
Oui, c'est l'espoir aussi de retrouver un passé regretté. Le passé de cette ville qui était autrefois, on l'a dit, l'une des capitales industrielles du pays. Les mines, les usines chimiques, les chantiers navals ont disparu. Et ce sont maintenant les pubs qui jonchent la jetée le long du port. Et c'est exactement à cet endroit que j'ai rencontré Janice qui m'a dit cette phrase « Le Brexit peut nous faire retrouver notre fierté perdue ».
Il y a un nouveau métro qui va être construit à Newcastle. Mais le contrat a été remporté par la Suisse, alors qu'on a une usine juste à côté qui sait très bien construire ces machines. On est forcé de réagir. On se débrouillait très bien avant, il n'y a aucune raison que ce soit différent aujourd'hui. Je suis très optimiste pour la suite.
C'est cette nostalgie qui a été en fait le terreau du Brexit, avec cette certitude de pouvoir s'en sortir beaucoup mieux sans l'Union européenne.
Et pourtant, Pauline, ces villes du nord-est de l'Angleterre ont été largement aidées par l'Union européenne. Elles ont reçu des subventions.
Oui, des dizaines de millions d'euros, mais en fait, personne n'a vraiment le sentiment d'en avoir profité. Et les gens ici disent, de toute façon, nous aussi, on paye pour l'Europe, donc ça ne sert à rien, autant se débrouiller tout seul. En revanche, là où j'ai noté que certains Anglais commençaient à douter, c'est dans ces villes du Nord-Est où les entreprises étrangères sont installées. À Sunderland, par exemple, il y a une usine Nissan qui fait vivre directement et indirectement 25 000 personnes. 25 000 personnes, c'est plus de 10% de la population. Et il y a une question qui taraude les habitants en ce moment, c'est est-ce que Nissan va rester ? La ville a pourtant voté très clairement pour le Brexit, 60% des électeurs, mais il y a un doute, il y a une angoisse, mais très peu regrettent ouvertement leur vote. Là encore, c'est l'Europe qui est accusée. Si Nissan s'en va, ce ne sera pas à cause du Brexit, ce sera de la faute de Bruxelles et de cette interminable négociation d'un accord qui n'est toujours pas trouvé.
Bon, en tout cas, ils sont cohérents avec eux-mêmes et il faudra faire le bilan de tout ça dans quelques années. Un grand merci, Pauline, pour cette plongée dans cette Angleterre qui espère beaucoup de ce tournant historique. À très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
À suivre, la campagne présidentielle américaine, on entre dans le concret avec le début des primaires démocrates dès demain dans l'Iowa. Xavier Yvon nous attend outre-Atlantique.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec Sophie Larmoyer et avec vous Sophie, on prend maintenant la direction des États-Unis qui entre dans une longue période électorale. C'est le vrai coup d'envoi demain de la campagne présidentielle américaine avec les primaires démocrates. Il s'agit pour les 11 candidats encore en lice de remporter l'investiture du Parti démocrate. Et pour ça, à partir de demain et jusqu'en juin, On votera dans tous les États américains pour choisir le candidat ou la candidate qui affrontera Donald Trump le 3 novembre 2020. Et ça démarre donc dans l'Iowa, où l'on retrouve notre correspondant Xavier Yvon. Bonjour Xavier.
Hello Sophie, bonjour à tous.
L'Iowa, c'est traditionnellement le premier État à voter. Et donc, tous les 4 ans, ça transforme ce petit État, c'est 1% de la population américaine, en véritable centre du monde politique.
Et oui, ça donne une dimension démesurée à cet État rural en plein milieu du pays. D'ailleurs, certains critiquent cette place. Sa population, en grande majorité blanche, ne reflète pas vraiment la diversité des États-Unis. Mais bon, les candidats savent que l'Iowa, c'est incontournable. Après des mois de sondages, enfin un vote, un vrai, pour mesurer les forces en présence. Un bon résultat dans l'Iowa, ça peut enclencher une dynamique, comme pour Barack Obama en 2008. Un mauvais score, ça peut enterrer votre campagne. Parce que si on croit plus que vous pouvez gagner, plus personne ne vous donne de l'argent et il y a besoin d'un paquet de dollars pour tenir jusqu'en juin au bout des primaires.
C'est pour ça que les candidats font campagne depuis des mois dans l'Iowa.
Ah oui, quand vous vivez dans l'Iowa, impossible d'ignorer qu'il y a une campagne électorale entre les affiches, les pubs pour les candidats à la télé, à la radio. Évidemment, les meetings quotidiens et les milliers de militants qui frappent aux portes. Voilà, les candidats eux-mêmes ont sillonné l'Iowa du nord au sud, d'est en ouest, comté par comté. Il faut presque le vouloir pour arriver à ne pas croiser un candidat. Écoutez ce qu'en dit Nancy, une institutrice à la retraite et habitante de l'Iowa depuis toujours.
Si vous ne serrez pas la main du prochain président des États-Unis quand vous vivez dans l'Iowa, alors vous ne vivez pas comme il faut. Vous avez cette chance, faites-le.
Et c'est vrai qu'ils ont cette chance d'être courtisés. Le New York Times a fait un reportage cette semaine dans l'état voisin du Nebraska, totalement ignoré par les candidats. Sa primaire, c'est le 12 mai, donc tout sera à peu près joué. Dans l'Iowa, en revanche, si les prétendants à l'investiture le pouvaient, ils iraient rencontrer personnellement chaque habitant pour les motiver. Parce qu'ici, il ne suffit pas de déposer un bulletin dans l'urne pour voter, il faut aller au caucus. Les caucus, c'est des rassemblements dans les salles de votre quartier où vous allez voter en vous déplaçant physiquement dans le coin de la salle de votre candidat. On compte les têtes, il y a un deuxième tour, bref, ça prend toute la soirée.
Ouais, il faut les motiver, mais les habitants de l'Iowa sont conscients de leur rôle et certains le prennent très à cœur, m'avez-vous dit.
Oui, c'est vrai. Prenez Nancy qu'on vient d'entendre. Je l'ai rencontrée avec ses amis Roberta et David, deux autres retraités. C'était au petit-déj de notre hôtel à l'extérieur de Des Moines, la capitale de l'Iowa. Eux aussi, ils sillonnent le pays pour voir le maximum de candidats, choisir en toute connaissance de cause. Alors, je les ai suivis à la fête du poisson frit d'une élue locale. Elle avait invité tous les candidats à s'exprimer. On s'est donc retrouvés dans une grange, assis à une grande table, dans une odeur de friture.
Là, je cherche toutes les informations que je peux sur chaque candidat. Et je suis si contente qu'il y en ait autant qui ont les mêmes préoccupations que moi.
Je crois qu'on en a vu 22. Et parfois, on en a vu 12 d'un coup.
J'ai vu Elizabeth Warren, Cory Booker 3 fois, Kamala Harris 2 fois. J'ai vu Biden et John Delaney très tôt. Ils sont tous venus. Et je suis allée à tous les événements à Cedar Rapids, à Des Moines. Mais c'est tellement dur. Pour chacun, je me dis, ah oui, c'est exactement ça dont nous avons besoin. Ils disent tous des choses justes. C'est tellement dur.
Moi, j'aime bien quand ils abandonnent. Ça rend le choix plus facile.
Ah, j'adore votre petit trio, là. Ils ont l'air bien indécis, quand même, vos routards de la campagne électorale.
Oui, c'est vrai, mais ils sont représentatifs. Comme eux, environ 40% des électeurs démocrates de l'Iowa n'ont pas encore définitivement fait leur choix. Le critère numéro un pour se décider, c'est un mot qui revient souvent, electability. Ça veut dire la capacité à être élu, à gagner, parce qu'ils sont tous au moins d'accord sur l'objectif à atteindre. Écoutez bien ces différents militants que j'ai croisés un peu partout dans l'Iowa.
Dégager Trump, c'est l'objectif numéro un.
On est tous là pour une chose, battre Donald Trump. J'aime bien certains trucs chez Warren, mais aussi chez Joe Biden. Mais quel que soit le candidat, ça n'a pas d'importance. Faut qu'on le vire, l'autre.
Absolument. Principal objectif, se débarrasser de Trump.
Bon d'accord, on a compris le but. Mais alors, qui pour battre Trump?
Ah bah c'est là le grand dilemme des démocrates. Faut-il un candidat rassembleur, centriste, qui peut attirer les républicains modérés dégoûtés par Trump? ou bien au contraire quelqu'un qui est plus à gauche, qui promet des changements radicaux pour répondre au mal-être des Américains et à ces raisons qui les ont poussés à aller élire Trump. Et pour incarner ces deux voix, il y a quatre candidats qui se détachent dans les sondages.
Ah, vous nous les présentez brièvement ?
Oui, alors pour les centristes, il y a bien sûr Joe Biden, l'ancien vice-président d'Obama, toujours favori, grâce à cet argument qu'il martèle en permanence. Je battrai Trump à plate couture, c'est pour ça qu'il a peur de moi. Derrière lui, en embuscade, il y a Pete Buttigieg, jeune, ouvertement homosexuel, maire d'une petite ville de l'Indiana, bardé de diplômes, vétéran d'Afghanistan, polyglotte, il parle 8 langues, dont le français. Thank you, Iowa. Il a déployé une armée de militants sur le terrain.
Voilà pour ce qu'on peut appeler les centristes chez les démocrates. Et plus à gauche alors ?
Alors à gauche, il y a Bernie Sanders, le vieux sénateur du Vermont, qui continue sur sa lancée de 2016. You can't have a vision for a different America. It's all impossible until it happens. Et il continue à promettre qu'une autre vision de l'Amérique est possible. Et sur le même créneau, il y a sa collègue sénatrice Elizabeth Warren. And I got a plan for that. L'ancienne prof dont le credo est « J'ai un plan pour tout ».
Et alors, qu'en disent les sympathisants démocrates que vous avez croisés dans l'Iowa ?
Eh bien, ils sous-pèsent les chances des uns et des autres face à Donald Trump. Ils regardent les programmes, mais aussi les personnalités. René, par exemple, élimine d'emblée Warren et Sanders, mais écoutez, pour des raisons très différentes.
Elizabeth Warren, non, j'y crois pas. Et vous savez pourquoi ? Parce que ce pays n'est pas prêt à élire une femme. Je suis désolée de le dire, hein. Je suis une femme, j'ai voté pour Hillary Clinton, et on connaît la suite. Et puis Sanders, c'est un révolutionnaire. On n'a pas besoin d'une révolution. On a besoin d'unité entre les deux côtés de l'hémicycle. En ce moment, ça va très mal.
Donc, René a choisi, ce sera Joe Biden, le safe bet, le pari sans risque. Erreur, lui répond Ryan, un supporter de Warren. Ce n'est pas avec de l'eau tiède qu'on va gagner.
S'il fallait être au centre pour gagner une élection, Donald Trump n'aurait jamais gagné. C'est le candidat le plus à l'extrême droite que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est inspirer les gens. Il faut qu'ils croient en quelque chose.
Voilà, chacun a son avis sur la stratégie à adopter. Sur le fond, Xavier, à part battre Trump, est-ce qu'on parle de programme, vision politique ?
Ah oui, bien sûr, avec ses sympathisants ou militants, on parle beaucoup d'environnement, d'éducation et aussi de santé. L'une des propositions phares des candidats les plus à gauche, c'est un système de santé universel, un peu comme chez nous en France, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui gère le remboursement des soins. Ouais. Ça s'appelle Medicare for All. Et dans l'Amérique libérale où chacun paye pour soi, ce serait un changement radical. Et là encore, on en revient à la stratégie pour gagner. C'est le dilemme, par exemple, qui ronge nos retraités en train de manger du poisson frit.
Bernie et Elizabeth, avec leur Medicare for All, c'est une idée risquée dans le débat politique. Mais c'est sûrement le seul moyen pour notre pays d'avancer. Nous sommes censés être un pays développé. Et regardez, nous avons des gens dans la pauvreté qui n'ont pas les moyens d'être soignés. Et ce sont les compagnies d'assurance qui décident. Ce n'est pas normal.
Oui, la seule chose qu'il faudrait, c'est Medicare for All. Mais je ne crois pas que nous puissions vendre cette idée à tout le monde. Et ça, ça m'inquiète.
Xavier, à part ces quatre candidats principaux là dont on vient de parler, est-ce qu'il y en a d'autres à surveiller ?
Oui, alors il y a la sénatrice Amy Klobuchar qui pourrait créer la surprise et faire un bon score dans l'Iowa. Elle vient du Minnesota voisin, c'est une démocrate pragmatique, prête à travailler avec les républicains. Elle est très drôle, je l'ai vu, et elle joue beaucoup de son côté Midwest. Et puis il y a aussi un des ovnis de cette campagne, Andrew Yang, un jeune start-upper, candidat d'origine asiatique, c'est très rare. Sa proposition phare, c'est le revenu universel, $1000 par mois par américain. Et avec sa campagne originale, notamment sur les réseaux sociaux, il a réussi à attirer l'attention.
Alors pour finir, on va parler d'un grand absent, on se demande bien où il est passé. Vous avez dit que l'Iowa était incontournable, mais il y a un candidat qui sèche ce premier scrutin, c'est Michael Bloomberg.
Oui, c'est vrai, le milliardaire ancien maire de New York s'est lancé très tard dans la campagne et il a donc adopté une stratégie jamais vue. Il mise tout sur les plus gros États, notamment ceux du Super Tuesday début mars. Et en attendant, il inonde les télés de tout le pays avec ses clips de campagne. Ça coûte des dizaines de millions de dollars. Michael Bloomberg finance tout avec sa propre fortune. Pas de problème de trésorerie pour lui pour aller au bout des primaires. Il s'est même payé un écran de pub qui va passer ce soir pendant le Super Bowl, la finale de football américain. C'est la plus grosse audience télé de l'année. George started playing football when he was 4 years old. He would wake up every Saturday ready for the game. 60 secondes payées 11 millions de dollars. Et devinez qui d'autre a déboursé la même somme pour son propre clip ce soir.
Un autre milliardaire ?
Exactement, un autre milliardaire new-yorkais, Donald Trump. Ça n'est pas anodin, le président tweet pas mal contre celui qu'il appelle Mini Mike, ça veut dire qu'il craint sa candidature. Et pour l'instant, le déluge de pubs fonctionne puisque Michael Bloomberg monte dans les sondages, il est même désormais troisième dans une dernière étude là, qui est sortie ces derniers jours.
Voilà, l'argent ne fait pas tout, dit-on, mais enfin, il n'y a pas à dire, hein, quand même, ça aide. Bon, caucus, demain dans l'Iowa où vous êtes, Xavier, il n'y a quand même pas beaucoup de pays où on se met dans un coin ou un autre de la pièce pour choisir potentiellement son futur président. Et puis le Super Tuesday que vous évoquiez à l'instant, ce sera le 3 mars avec des votes dans 15 États, dont deux parmi les plus peuplés et qui donc rapportent beaucoup de délégués, le Texas et la Californie. Merci Xavier, à bientôt.
À bientôt.
À suivre, un livre dans le monde avec un super auteur algérien, m'a dit Nicolas Carreau, à tout de suite.
13h-14h, les carnets du monde.
Avec Sophie Larmoyer sur Europe 1. Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h avec vous, Sophie Larmoyer.
Il nous fait découvrir des auteurs étrangers qui racontent le monde à leur façon. Nicolas Carreau nous rejoint avec un livre sous le bras.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Le livre que vous avez devant vous nous emmène en Algérie, ça faisait longtemps.
Ben oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Et le livre s'appelle L'âne mort, signé Chokhi Amari, aux éditions de l'Observatoire. Chokhi Amari, c'est un journaliste, satiriste, caricaturiste. Il est très drôle et on visite en long en large l'Algérie puisque c'est un road trip depuis Alger jusqu'aux montagnes de la Kabylie. Ouais. La voiture, c'est un vieux break bleu et les passagers, ce sont trois Algérois. Il y a une femme, Tissam, et deux garçons, Lies et Mounir. Ah oui, et il transporte aussi un âne mort dans le coffre, d'où le titre du livre.
Mais pourquoi se baladent-ils avec un âne mort dans leur coffre ?
C'est une longue histoire. Ça commence par du désœuvrement. C'est souvent comme ça que les bêtises arrivent. C'est bien connu. Les trois copains s'ennuient et cherchent un moyen de devenir riches. Je vous passe les détails, mais il se retrouve chez un ancien commissaire propriétaire d'un âne et il pousse l'âne du commissaire dans la piscine. L'âne se noie et il l'embarque donc dans la voiture. Ils partent en cavale, une cavale tranquille quand même, puisque la voiture doit s'arrêter toutes les heures pendant une heure pour refroidir.
Ils sont recherchés quand même ?
Oui, oui, oui. Il y a même des barrages de police à éviter. Les policiers cherchent l'âne partout, parce qu'il faut dire que le commissaire adorait son âne et c'était quelqu'un de très puissant.
Et ils partent en Kabylie, donc.
Oui, ils vont croiser notamment Izouzen. C'est un type un peu étrange. Il est libraire, mais aussi pizzaïolo. Et il a enterré ses 6 épouses successives dans son jardin. C'est loin d'être le seul personnage. Le livre est tout petit, 160 pages. Mais il y a au moins une quinzaine de personnages, tous aussi délirants les uns que les autres.
Ça devient de plus en plus étrange, bizarre, votre
ouais,
histoire.
Oui, c'est ça, étrange, rocambolesque, un peu surréaliste parfois. C'est une fable, en fait, et c'est un peu perché, y compris dans la manière d'écrire. Tenez, par exemple, quand Chokhi Amari décrit les barrages routiers. On s'arrête souvent en Algérie, trop de barrages, trop d'arrêts intempestifs. Sur les routes, on n'a même pas le temps de se lancer qu'il faut déjà s'arrêter et repartir. Ça tue l'entrain, ça bloque les dynamiques et ça plie, déplie le temps accordé, désaccordé qui joue pour les autres. C'est marrant cette façon d'écrire.
Il parle beaucoup de l'Algérie.
Oui, beaucoup et même plus que ça. Il rend hommage à celui qui est considéré comme le premier écrivain algérien, Apulé, qui a écrit au IIe siècle L'âne d'or. J'ai demandé à Chokhi Amari quel était le rapport.
C'est une histoire, en gros, d'un type qui est ensorcelé, en fait, par son amante, qui est une sorcière par ailleurs, et qui transforme en âne. Et donc, le chemin narratif du livre, c'est qu'il doit faire en sorte de retrouver son corps d'être humain. En fait, c'est ça l'histoire. Bon, il y a plusieurs versions. Il y a la version courte, il y a la version qui est assez longue, qui est très salace, on va dire, avec plein de gros mots. Et je crois que c'est pour ça que la version expurgée est beaucoup plus petite. Ils ont enlevé un peu tout. Donc évidemment, c'est pas une copie de l'âne d'or, mais c'est juste un clin d'œil.
Voilà,
je l'ai appelé à Alger, hein, donc la liaison n'est pas terrible.
Son roman à lui, c'est donc l'âne mort, lourd comme un âne mort. C'est une expression, ça ?
Oui, une expression qui cache une grande question, Chokhi Amari.
Pourquoi un âne mort est-il plus lourd qu'un âne vivant ? Qui, logiquement, devrait, parce qu'il se débat, devrait plus le rapporter. Donc voilà, ça c'est une expression qui existe un peu partout en français, en algérien, en chinois, je l'ai retrouvé, en Amérique du Sud, on dit la même chose. Pousser un âne mort, c'est un peu le summum de l'humanité.
Il se pose des questions essentielles.
Oui, il est obsédé par la gravité aussi, et les lois de la gravitation universelle. C'est un peu délirant. C'est d'ailleurs un roman très drôle aussi, et finalement très profond.
L'âne mort, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Sophie.
Et on vous retrouve dès 14h pour La Voix et Livre. On file en Chine. Dans quelques instants, observez la mobilisation générale pour essayer de contenir le coronavirus.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h30 et c'est en Chine que nous partons maintenant, Sophie Larmoyer. La Chine qui fait face à l'épidémie de coronavirus. Sur 14 000 cas de personnes infectées, le dernier bilan fait état de 304 morts.
Le bilan s'alourdit de façon exponentielle. Jeudi, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré l'épidémie de coronavirus urgence de santé publique de portée internationale. De nombreux pays ont organisé cette semaine l'évacuation de leurs ressortissants. Beaucoup de compagnies aériennes, dont Air France, ont suspendu leurs vols vers la Chine continentale. Et dans le pays, les cordons sanitaires mis en place sont draconiens. Notre correspondant Sébastien Lebelzik est sur place. Écoutez son reportage tourné entre Pékin et les provinces environnantes.
L'hôpital de Ditan est l'un des 20 centres médicaux autorisés à prendre en charge les patients atteints du coronavirus à Pékin. À l'entrée, contrôle de température systématique et port du masque obligatoire. Des dizaines de médecins et d'infirmières en tenue intégrale de protection s'affairent dans les couloirs. L'ambiance est tendue, mais le personnel reste calme. Wang Ling, médecin attaché au service des urgences.
Les patients que nous recevons là ne sont pas les plus atteints. Ils n'ont pas de gros problèmes respiratoires. Quand ils arrivent dans mon service, on commence par leur administrer un traitement combiné de médecine chinoise et occidentale. En général, ça les soulage rapidement.
Il n'existe encore aucun vaccin pour éliminer le coronavirus. Mais certains malades ont pu être guéris après une quinzaine de jours de traitement et une mise en quarantaine très stricte. Ces hôpitaux spécialisés à Pékin, comme dans toute la Chine, fonctionnent 24 heures sur 24. L'ensemble du pays est désormais placé en état d'alerte sanitaire de niveau 1, le seuil maximum. La première urgence, c'est de protéger le personnel soignant. Le médecin Chen est l'un des responsables de l'hôpital de Ditan.
Il faut d'abord protéger nos équipes médicales. Nous avons fait un inventaire précis des combinaisons et des masques de protection, et pour l'instant, le stock est suffisant. Mais il faudra être approvisionné régulièrement.
Si à Pékin, la capitale, la situation semble sous contrôle, à Wuhan, où se trouve le foyer de l'épidémie, le nombre de malades dépasse très largement le nombre de lits dans les hôpitaux. Dans cette province étendue comme la Grande-Bretagne, des dizaines de millions de personnes sont coupées du monde, placées de fait en quarantaine. L'armée a été appelée à la rescousse, à la fois des médecins militaires et des forces de sécurité qui contrôlent tous les véhicules. Des contrôles très stricts, la tension est à son comble.
On passe en revue chaque véhicule. On regarde s'il y a des animaux vivants qui sont transportés et on vérifie les papiers de tout le monde. On assure aussi la sécurité publique pour être sûr que tout est calme.
Des checkpoints comme celui-ci, il y en a des centaines autour de Wuhan. Le gouvernement chinois cherche surtout à éviter la propagation du virus en empêchant des mouvements importants de population. À Wuhan, les transports publics sont tous fermés. À Pékin, ce n'est pas encore le cas, mais il faut passer plusieurs contrôles de température avant de prendre le métro, le bus ou l'avion, comme nous l'explique cette inspectrice équipée d'un thermomètre frontal.
Nous prenons la température des passagers avec un capteur, et s'il a de la fièvre, alors il est tout de suite emmené dans une zone de quarantaine. On en trouve à toutes les issues, à moins de 30 mètres du point de contrôle.
Même à l'entrée des immeubles d'habitation, des bureaux et des magasins, des gardiens en tenue bleue, le visage masqué, sont chargés de prendre les températures. Tous les voyages organisés en Chine et vers l'étranger sont désormais interdits. Plusieurs compagnies aériennes ont annulé leurs vols vers la Chine. La Chine se referme peu à peu, l'angoisse monte. Les écoles, les universités, la plupart des usines, des bureaux et des administrations sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Voilà, situation à peine croyable hein, de cet immense pays qui est comme sur pause. Sébastien Lebelzik est en ligne avec nous depuis Pékin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sophie.
On écoute la fin de votre reportage et on imagine des villes mortes si tout est fermé. Ça doit créer une ambiance de fin du monde, non ?
Ouais, c'est un peu le cas, effectivement, un sentiment de profonde inquiétude aussi lorsque les rues qui sont quasi désertes et que vous ne croisez que des personnes masquées, parfois même avec des lunettes de plongée hein, pour se protéger les yeux, ou des gardiens avec des thermomètres à infrarouge qui vous pointent cet appareil sur le front. Les gens évitent bien sûr de sortir, hein, sauf pour faire des courses de nourriture, se ravitailler par peur d'être contaminés, mais aussi parce que nous recevons des messages quotidiens par SMS ou par email qui nous demandent d'éviter de sortir, de nous laver les mains, qui nous demande si on a prévu de se déplacer, à quel endroit, pour faire quoi. On nous demande en fait si nous avons été en contact, surtout même lointain, avec des personnes de la ville de Wuhan ou de la province du Hubei. Ça crée un sentiment de panique. Certains villages un peu reculés autour de Pékin empêchent carrément les étrangers de rentrer. Ils ont bloqué les routes dans le Hubei, qui est une province au sud de Pékin. Il y a certaines municipalités qui appellent à la délation. 2000 RMB, soit plus de 250 euros, à qui dénoncera un visiteur venu du Roubaix et qui ne se serait pas fait connaître. Ce sont un peu devenus les pestiférés de cette Chine en crise. Et puis, plus largement, au niveau économique, il y a déjà des conséquences très visibles avec les fermetures qui ont été prolongées au moins jusqu'au 9 février. Les usines Toyota, Honda, Renault, PSA, mais aussi les cafés Starbucks, les magasins IKEA, tous sont fermés. À Pékin, le nombre de touristes a chuté de 80% depuis le début du mois. La cité interdite est même fermée depuis une semaine. Bref, c'est une vraie catastrophe sanitaire, mais aussi économique.
Alors, vous avez fait le choix, Sébastien, de rester en Chine pour nous raconter cet épisode sanitaire critique. Comment ça se passe à Pékin pour la vie quotidienne ?
Écoutez, c'est devenu très compliqué pour nous à Pékin de se déplacer. Notamment, certaines stations de métro sont fermées, comme autour de la place Tiananmen. D'autres sont bloquées par deux ou trois contrôles de température, avec des hommes à l'allure inquiétante, en blouse blanche et masque de protection. Ça donne vraiment pas envie de sortir. Nous avons reçu des messages à la fois de la mairie de Pékin et de l'ambassade de France pour nous demander de rester chez nous, de surveiller que l'on n'a pas de fièvre. Et la liste des hôpitaux susceptibles de recevoir les malades est accrochée dans le hall de notre immeuble. Il y a même des gardiens qui contrôlent notre température quand on passe le portique pour rentrer dans le parking. C'est une ambiance très difficile, notamment pour les familles françaises expatriées à Pékin, comme cette jeune femme. Écoutez.
On nous dit que la rentrée des classes est reportée au 17 février pour le lycée français et qu'ils vont nettoyer complètement l'école. Ça fait peur quand même, hein. Ça veut dire qu'on va rester comme ça encore au moins 3 semaines. Hein. Alors j'ai fait des provisions, j'ai acheté à manger, j'ai acheté de l'eau, tout ce qu'il faut. Je pense qu'on peut tenir au moins une semaine sans sortir.
Ah, les Français en Chine, justement, Sébastien, ils sont nombreux à être restés ?
Oui, pour l'instant, seuls les expatriés français et plus largement les étrangers de Wuhan sont en train d'être évacués via des ponts aériens. À Pékin, pour l'instant, tout le monde attend de savoir ce qu'il va se passer. Il y a 5 écoles françaises en Chine. Hein, on l'a dit, elles sont fermées. Mais des cours sont quand même organisés via Internet, en télétravail. C'est assez exceptionnel. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, essayent quand même, quand c'est possible, de mettre en place ce travail à distance. Bref, on se prépare à des semaines et peut-être même des mois de confinement. Le pic de l'épidémie pourrait intervenir d'ici une dizaine de jours. C'est en tout cas ce que disent les médecins. Et puis tout le monde espère qu'un vaccin pourra être développé. Il y a déjà quelques avancées dans ce domaine, mais ça prendra du temps. En tout cas, on a dépassé le nombre de malades du SRAS en 2003 et donc c'est véritablement une épidémie importante.
Ouais. Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces précisions. Vous continuerez à nous raconter cette épidémie de l'intérieur du pays dans les jours et les semaines qui viennent. Prenez soin de vous.
Merci Sophie.
On quitte le coronavirus en Chine pour aller manipuler des bactéries direction le Sénégal, dans les pas de deux éminents chercheurs qui s'intéressent de très près aux microbiotes de populations reculées. Vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien, vous allez bientôt le savoir. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Comme tous les dimanches de 13h à 14h, vous écoutez Sophie Larmoyer. Il est 13h40, on va partir ensemble au Sénégal pour une exploration scientifique pas banale.
Bizarrement, aujourd'hui, on va parler de nos intestins en suivant deux chercheurs qui sillonnent le monde avec le projet fou d'y recueillir de quoi créer de nouveaux types de médicaments. Enfin, pas si fou d'ailleurs, c'est archi sérieux. Bonjour Cécile Coumeau.
Bonjour Sophie.
Ravie de vous rencontrer. Vous êtes journaliste spécialiste des questions de santé et vous avez suivi ces deux chercheurs, Mathilde Poyet et Mathieu Groussin, dans un tout petit village au fin fond du Sénégal. On va écouter votre reportage, mais d'abord, il faut nous expliquer le mot magique de ce reportage. C'est quoi le microbiote intestinal?
En fait, c'est ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale. Puis on a découvert que c'était un organe en fait à part entière, composé de 100 000 milliards de bactéries, de virus, de parasites ou encore de champignons qui vivent dans nos intestins, d'où le terme microbiote. Et le tout pèse quand même 2 kilos. Hein.
Mais on savait déjà qu'on avait des microbes dans notre système digestif.
Oui, on le sait depuis un siècle environ, mais il y a une dizaine d'années, tout a basculé en fait. Les techniques de séquençage du génome ont permis de découvrir le rôle positif de ces bactéries. Et beaucoup d'espèces étaient totalement inconnues en fait.
Alors quels sont leurs rôles justement ces bactéries ?
Alors il y en a beaucoup. Elles jouent par exemple un rôle majeur, et c'est normal, dans la digestion. Sans certaines de ces bactéries, on ne serait pas capable en fait, d'assimiler les aliments, comme les fibres par exemple. Elles dopent aussi notre système immunitaire. Alors le problème, c'est qu'à force de manger de la nourriture industrialisée, de prendre des antibiotiques ou encore de faire la chasse à tous les microbes qui nous entourent, eh bien certaines de ces bactéries, elles disparaissent. Et quand notre microbiote est déséquilibré, qu'il est malade en quelque sorte, eh bien, on risque de développer des maladies comme les maladies chroniques de l'intestin, l'obésité, le diabète ou encore les allergies.
Alors, c'est quoi le projet des chercheurs que vous avez suivis? De régénérer notre microbiote, de le reconstituer en quelque sorte?
Alors, à terme, oui, c'est vrai, mais ça va un peu plus loin en fait. L'idée, c'est d'abord de protéger cette forme de biodiversité, parce que c'est bien ça dont il s'agit en fait. Comme les ours blancs ou les coraux, les bactéries intestinales sont menacées de disparition. Donc, ces chercheurs sont en train de constituer une banque de bactéries qu'on appelle le Global Microbiome Conservancy.
Alors c'est très sérieux, ces chercheurs ce ne sont pas les premiers venus.
Non, ce sont deux Frenchies qui travaillent aux États-Unis, au MIT. C'est le Massachusetts Institute of Technology, c'est un peu la mecque de la recherche scientifique. Mathilde Poyer, donc vous le disiez, et Mathieu Groussin, ils ont la trentaine, ils sont microbiologistes et ensemble, ils parcourent le monde à la recherche donc, de populations qui ont encore un microbiote riche et qui est donc, lui, porteur d'espoir.
Alors, on va les suivre. Sur le terrain, justement, ils sont déjà allés dans 11 pays, dont la Thaïlande, la Malaisie, le Nigeria ou la Tanzanie. Mais là, vous les avez accompagnés, Cécile Koumo, au Sénégal, dans un village à 700 km au sud de Dakar. Reportage.
Est-ce que, quand leur maman a accouché, est-ce qu'elle avait un problème et est-ce qu'elle a dû aller à l'hôpital pour ouvrir le ventre pour accoucher? Aucune des trois.
De retour des champs, les habitants du petit village d'Andiel ont pris l'habitude de se retrouver à l'ombre d'un arbre pour des discussions un peu étranges. Mathilde Poyer et Mathieu Groussin, chercheurs au Massachusetts Institute of Technology, leur demandent s'ils sont nés par césarienne, si leur mère les a allaités, mais aussi s'ils ont pris des antibiotiques. Parce que bizarrement, cela influence ce qui se passe dans leur ventre, le microbiote. Et c'est le thème de leur recherche.
Mathieu, qui est là, et moi, on rencontre des gens dans des villages très différents, un petit peu partout dans le monde. Okay. Et cette semaine, on est ici, chez eux, on essaye de comprendre comment les bactéries évoluent et comment elles influencent notre santé. D'accord ?
Mathilde et Mathieu se sont déjà rendus dans 11 pays. Là, ils sont chez les Bédiques, un peuple ultra minoritaire au Sénégal qui a conservé un mode de vie très rural, loin de ce qui menace les bactéries intestinales. Ils doivent recruter 30 villageois pour participer à leurs recherches. Première difficulté, leur expliquer que l'on a besoin de recueillir leurs excréments.
Les gens ne savent pas trop qu'est-ce qu'on fait avec leur sel et puis est-ce qu'après si on trouve des résultats, est-ce qu'on va leur donner les résultats, est-ce qu'on va les traiter après? Les gens se sont posés beaucoup de questions au départ.
Gérard, du centre de santé voisin, fait partie des partenaires locaux sur lesquels les chercheurs du MIT s'appuient pour préparer leur mission. Recueillir des sels, c'est quand même toucher à l'intimité. Mais chez les Bédiques, la requête passe bien, explique l'infirmier du village d'à côté.
Ils acceptent facilement, puisque nous, au niveau de Bandafassi, on fait les prélèvements des sels pour chercher la bilharziose intestinale. Avec la bilharziose intestinale, on demande de prélever les caca pour voir exactement ce qu'il en est. Il n'y a aucun problème, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants même. Ils ont l'habitude, chaque année on fait ça.
Ensuite, à Andiel, comme partout ailleurs dans le monde, Mathilde et Mathieu s'assurent que tous les participants ont bien compris les enjeux. Les deux chercheurs sont très vigilants sur les règles éthiques.
Alors, tu peux lui expliquer que ça, c'est un document de consentement pour participer à l'étude. Voilà, et si elle est d'accord pour participer, du coup, je vais avoir besoin de son nom et de sa signature. D'accord ? Et si elle ne sait pas écrire, on peut demander à quelqu'un d'écrire son nom.
Non, elle ne peut pas écrire.
Elle ne peut pas écrire. C'est toi qui écris ou c'est toi qui écris?
Au bout de quelques jours, ils ont recruté 15 hommes et 15 femmes, tous en bonne santé. C'est important pour étudier leur microbiote. Et ils ont tous répondu aux nombreuses questions sur leurs habitudes de vie.
Est-ce qu'ils mangent beaucoup de mille en ce moment?
Benda, c'est grande queso. Non, ils mangent plutôt du maïs.
Et le fonio? Le fonio, tu peux lui demander pour le fonio?
Fondeng, fondeng. Ouais, cette période, oui.
Tous les jours?
Le fonio, cette céréale qui commence à faire fureur dans les magasins bio en Europe, c'est l'aliment de base des Bédiques. Ils consomment en revanche très peu de protéines, de la gazelle parfois si les hommes sont allés chasser, et ils n'ont jamais bu un soda de leur vie. Selon Mathieu, parmi tous les peuples qu'ils ont rencontrés, les Bédiques font partie de ceux qui ont une diversité alimentaire les plus faibles. Après ces longs entretiens, chacun remonte au village dans la nuit et le lendemain, avant d'aller fouler le fonio, ils arrivent tous avec leur bol de sel. Chef du village en tête, Mathilde et Mathieu sont déjà là.
Il est à peu près 7 heures. Donc on vient récolter les échantillons de sel que les participants ont collecté ce matin. Donc il faut arriver très très tôt parce qu'ils vont ensuite travailler. Et puis nous, on a besoin d'avoir des échantillons frais pour que les bactéries intestinales soient encore vivantes dans les échantillons au moment où on les manipule et au moment où on les congèle.
Maintenant, les chercheurs peuvent commencer les analyses. Installés à l'arrière du 4x4, ils font une vraie recherche de terrain.
Alors, première chose, on va regarder la quantité qu'on a et puis attribuer un, ce qu'on appelle le Bristol Scale. Donc, c'est l'échelle qui permet de classer la consistance en fait, des échantillons de sel. Donc là, clairement, on a quelque chose de particulièrement riche en eau. Donc 1, c'est vraiment le plus constipé. Et puis jusqu'à 7, la diarrhée, vraiment.
Munis de gants et de masques, Mathilde et Mathieu peuvent maintenant manipuler les précieux échantillons. À l'aide de mini-cuillères, ils mettent quelques grammes de sel dans un tube à essai.
C'est un tube qui contient un cryoprotectant qui va nous permettre de conserver les bactéries vivantes et qui ne souffriront pas de la congélation à un froid vraiment extrême. Ici, on est à moins 196 degrés Celsius. Donc, sans un cryoprotectant, les cellules exploseraient et mourraient immédiatement. Et donc, ensuite, on pourra les décongeler en laboratoire et les faire pousser comme on veut.
Après avoir pesé et mesuré tout le monde, les échantillons de sel peuvent partir à Boston. Là-bas, Mathilde et Mathieu vont extraire et cultiver les précieuses bactéries des bédiques dans des chambres anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène. Aujourd'hui, leur périple n'est pas fini, mais ils ont déjà des premiers résultats.
C'est simple, à chaque fois qu'on essaye de cultiver les bactéries à partir d'un échantillon de microbiome, on parle en dizaines d'espèces. C'est un nombre d'espèces inconnues. Honnêtement, on s'y attendait. À ce niveau-là, non, quand même pas. C'est assez fantastique. C'est parfois même à l'échelle d'un genre complet nouveau.
Le but, en cultivant et en identifiant ces bactéries, c'est évidemment de mieux comprendre pourquoi tel style de vie a tel impact sur le microbiote et à terme d'élaborer des pistes thérapeutiques pour lutter contre les maladies du monde moderne. Andiel, Cécile Coumeau, Europe 1.
Voilà la découverte de nouvelles espèces de bactéries. Quel monde étrange que celui de Mathilde et Mathieu. Cécile Coumeau, vous êtes avec nous pour nous expliquer les enjeux de cette recherche de terrain. Vous avez évoqué cette bibliothèque de bactéries en voie de disparition, c'est super. Mais est-ce qu'on a déjà des pistes de traitement contre certaines de ces maladies du monde moderne ?
Oui, la première piste consiste à comparer le microbiote de personnes malades à celui de personnes en bonne santé, comme les personnes qui ont permis d'alimenter la biobanque. Ouais. Et en fonction des carences qu'on observe chez les malades, on leur donne la bactérie ou on leur donnerait la bactérie qui fait défaut, voire même un cocktail de bactéries. Autre piste, extraire des molécules de ces bactéries bénéfiques et les transformer génétiquement pour en faire des médicaments. C'est ce qu'on appelle les biothérapies.
Alors on a l'impression, en vous écoutant, que ce serait une sorte de remède miracle, les bactéries. Quelle garantie on a que c'est une stratégie gagnante ?
Alors, en médecine, rien n'est jamais gagné d'avance, mais certaines recherches sont très encourageantes. Un seul exemple, avec une bactérie qui a particulièrement fait le buzz, elle s'appelle Akkermansia municiphila. On s'est aperçu qu'elle était très peu présente dans le microbiote des personnes obèses. Eh bien, si on leur donne cette bactérie en traitement, ils perdent du poids.
Génial. Qui pourra profiter de ces médicaments à terme ?
Alors, j'aurais tendance à vous dire que ce sont des malades qui sont dans les pays riches. Mais si nos deux chercheurs du MIT parcourent le monde, c'est justement pour que les Occidentaux, comme les habitants d'Andiel au Sénégal, puissent bénéficier des progrès de la science. Avant eux, aucun chercheur n'a étudié leur microbiote. Et si l'industrialisation continue à gagner du terrain, à terme, ces populations reculées seront touchées par les mêmes maladies chroniques que nous.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de biopiraterie ? Autrement dit, qu'on utilise les bactéries de ces populations et que les labos, finalement, gagnent de l'argent grâce à cette richesse.
Et que ces populations n'en voient pas la couleur. En gros. C'est un danger que les chercheurs du MIT ont intégré très tôt et ils ont mis des gros remparts éthiques, je dirais. Concrètement, un contrat stipule que les populations restent propriétaires de leurs échantillons.
D'accord.
Si un laboratoire veut les utiliser, il va devoir négocier avec des ONG qui défendront les droits de ces peuples.
Enfin, Cécile, on peut déjà tester son propre microbiote. Il y a des tests qui sont commercialisés. Ça sert à quelque chose ou c'est du folklore ?
Alors pour le moment, ces tests ne sont pas très utiles, puisque même s'ils repèrent des défaillances dans votre microbiote, on manque encore de preuves pour faire le lien de cause à effet entre l'absence de telles bactéries et des symptômes, ou le risque de développer une maladie. Et puis, comme je le disais, on n'a pas encore de médicaments ni de cocktails de bactéries pour vous traiter. Or, ces tests coûtent quand même environ 300 euros.
Oui, en gros, on peut s'en passer. Merci beaucoup, Cécile Coumeau. C'est passionnant et on a compris que microbiote, c'est potentiellement un mot magique à suivre, évidemment. Merci de ce reportage et puis de cette pédagogie. Grâce à vous, on a tout compris.
Merci, Sophie. Au revoir.
Europe 1, les carnets du monde.
Et après tous ces virus et bactéries, Sophie Larmoyer, une bouffée d'air frais. Il est notre guide en autistan, comme chaque dimanche. Il a cette manière bien à lui de regarder le monde. Joseph Chovanec nous a rejoint dans les carnets.
Il le décrypte, ce monde, avec sa triple casquette de philosophe, autiste Asperger et grand voyageur. Bonjour Joseph, bienvenue, vous êtes décidé finalement à rentrer.
Oui, pour un petit moment. Ouais. Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Ce sont les graffitis en tout genre qui vous inspirent aujourd'hui.
Oui Sophie, quand on apprend l'histoire à l'école, on voit des photos de monuments avec des inscriptions grandioses en latin avec le nom de César, etc. J'en ai vu beaucoup durant mes voyages. Mais les inscriptions qui m'ont marqué le plus, c'était les petites inscriptions, les graffitis. Elles nous en apprennent beaucoup plus et sont en général beaucoup plus drôles. Pardon de commencer par cela, mais c'est un classique, les graffitis dans les toilettes.
Vous avez fait une étude comparée des graffitis dans les toilettes dans le monde ?
Non, je ne suis pas un expert, en particulier pas sur la question des graffitis dans les toilettes des filles. Je sais que ce genre littéraire, si j'ose dire, est très différent de pays en pays. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y a pas de constante humaine à ce niveau-là. Parfois, il n'y a pas du tout de graffiti dans les toilettes. Quand il y en a, ils sont des plus surprenants. L'un de mes meilleurs souvenirs était en Arabie Saoudite, à Taïf. Alors Taïf, c'est une ville dans la montagne, un peu façon Chamonix dans le désert. Les toilettes locales, des toilettes publiques gratuites, accolées à une mosquée, comme souvent dans les pays musulmans, ont des graffitis sur les murs qui rappellent aux passants de prier à l'heure, en plus de diverses considérations théologique.
Alors, on pourrait croire que ce sont des inscriptions toujours passagères, éphémères, mais non, pas toujours.
Non, parfois, Sophie, parfois les graffitis font partie de l'histoire du lieu. Le cas le mieux connu, celui des graffitis historiques de Pompéi, qui décrivent la vie quotidienne, ou les graffitis sur les pyramides d'Égypte. On les laisse, ils font partie du patrimoine. Savoir que tel calife des siècles en arrière était là, il a creusé ici pour trouver un trésor, ça donne un charme additionnel au voyage.
Ouais, puis c'est la marque d'une époque, quoi.
Oui, ça fait rêver. Par exemple, j'avais passé une journée quasiment seule dans le désert au Soudan face aux pyramides locales, car oui, il y a des pyramides pharaoniques au Soudan aussi. Mon regard était sans cesse attiré par les inscriptions faites à l'encre noire en grosses lettres majuscules. Spontanément, on les aurait datées à quelques mois en arrière, l'œuvre d'un adolescent désœuvré. mais renseignement pris, c'était les traces d'un aventurier européen du 19e siècle. Je l'imagine déjà jeune marginal en errance qui a tout risqué pour aller au fin fond du désert. Il se trouve face à des pyramides inconnues et avec ce climat du désert qui conserve tout, qui donne aux visiteurs un parfum d'éternité.
Et ces témoignages dont vous parlez ne sont pas toujours gravés ou inscrits sur la pierre.
Non, par exemple, j'ai pu voir la forêt de cèdres au Liban, la fameuse. On y voit ces géants silencieux qui poussent siècle après siècle, millénaire après millénaire. Et le plus frêle arbrisseau a déjà 70 ans. Et parfois, on voit dans l'écorce des graffitis, des prénoms européens gravés, des dates. Un tel 1826, par exemple. Alors qu'on aurait juré que cela a été fait la veille. Des rencontres assez uniques à travers les siècles. Mon histoire préférée, c'était il y a 2 semaines à peine. J'étais avec l'un de mes profs d'arabe, un vieux monsieur extrêmement érudit, tout à fait autisto-compatible, si j'ose dire, avec des centres d'intérêt massif pour l'histoire, les vieux trucs en général.
Je rappelle que vous rentrez d'Oman, c'était donc dans ce sultanat de la péninsule arabique.
Tout à fait. Et il m'a fait visiter une très vieille mosquée dont j'ignorais l'existence, qui bien sûr ne figure pas sur les cartes. Je me sentais un peu comme quand on avait ouvert la tombe de Toutankhamon. Et mon guide érudit de lire avec 1000 commentaires savants les textes écrits au crayon sur les murs des siècles en arrière. Et soudain, son regard a été attiré par une inscription bizarre. Non pas des versets coraniques, mais des signes répétitifs, des nombres. Mon maître les a longuement dévisagés et de murmurer « Je ne comprends pas ». Pour ma part, je souris. C'était sans doute là des graffitis d'un autiste matheux qui nous faisait des clins d'œil à travers les âges.
Ah oui, peut-être, effectivement. Vous laissez des petits messages, vous, des traces où vous passez ?
Juste des traces de pas.
Merci beaucoup, Joseph, pour ce regard toujours original. À dimanche prochain.
À très bientôt.
Merci de nous avoir accompagnés. C'est la fin des Carnets du Monde. Vous pouvez retrouver, comme chaque semaine, chaque dimanche, le podcast sur europe1.fr. Un grand merci à Nicolas Six qui a réalisé cette émission, à Florence Gilmalac qui, comme chaque semaine, m'aide à la préparer. On vous prépare de nouvelles aventures pour la semaine prochaine. Vous serez avec François Claus. Et dans quelques instants, c'est vous, Nicolas, qu'on retrouve. Quel est le programme de La Voix et Livre ?
Alors, je reçois l'écrivain Pascal Manoukian pour son dernier roman. On va partir à la découverte d'une tribu amazonienne. Et puis, nous visiterons la bibliothèque de Mathilde Amet.
Oh, chouette !
Ouais, il y a une lettre manuscrite de collège, je peux déjà vous dire ça.
Vous avez de la chance quand même, vous, d'aller chez des gens comme ça. Merci beaucoup, Nicolas. À tout de suite. Et à tous, portez-vous bien.
Et à la semaine prochaine, Sophie Larmoyer. Et je rappelle que juste après La Voix est libre, eh bien, nous retrouverons Isabelle Morizet pour son entretien d'une heure avec aujourd'hui le réalisateur Michel Hazanavicius. Hazanavicius pour la sortie le 12 février prochain d'une comédie entre conte et réalité, Le Prince oublié, avec Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est donc dès 15h sur Europe 1.